Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, la canicule s'installe aujourd'hui sur une large partie du pays, de Paris au centre-est, avec des températures qui s'approchent de plus en plus des 40 degrés. Les présidents américains et iraniens ont chacun signé à distance hier soir le protocole d'accord où Téhéran s'engage à réouvrir immédiatement le détroit d'Ormuz et à diluer son uranium enrichi. Malgré la signature de cet accord qui prévoit la fin de la guerre sur tous les fronts de la région, dont le Liban, un homme a été tué aujourd'hui dans le sud du pays dans une frappe israélienne. Nous l'avons évoqué dans les titres, les présidents américains et iraniens ont chacun signé à distance hier soir le protocole d'accord où Téhéran s'engage à réouvrir immédiatement le détroit d'Ormuz et dans le cadre de futures négociations à diluer son uranium enrichi en échange de la levée des sanctions internationales. Retour sur les points de cet accord avec Jean-Paul Chagnolo, directeur de la revue Confluence Méditerranée et président d'honneur de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient.
C'est un protocole d'accord qui finalement ne règle rien, si ce n'est, mais c'est quand même tout à fait fondamental, évidemment, la fin immédiate et permanente de la guerre sur tous les fronts. Je cite l'article premier de ce protocole. Donc ça, c'est tout de même très tangible. Mais ensuite, cette cessation des hostilités, pour le reste, il n'y a rien sur le fond. Vous avez vous-même évoqué qu'on rouvre le détroit d'Ormuz, ce qui est très bien, sauf que, évidemment, chacun le sait, il n'était pas fermé avant le 28 février. Donc, on revient à la situation d'avant, avec une différence tout de même assez fondamentale, c'est que la liberté de navigation qui présidait à ce qui se passait à ce moment-là dans le détroit d'Ormuz, aujourd'hui, très probablement, les Iraniens, sans doute avec la collaboration d'Oman, vont instaurer, non pas un péage, puisque le mot fait peur, mais plutôt va faire payer un certain nombre de services qui seront installés sans doute après la période des 60 jours. Donc, ensuite, il y a quelques éléments qui projettent les choses sur la deuxième partie, qui est en fait un accord qui devrait être signé dans les 60 jours. Et c'est là où on touche le fondamental, c'est-à-dire en fait la question du nucléaire. Donc on renvoie à dans 60 jours des négociations qui devraient aboutir sur le nucléaire. Or, à mon avis, les 60 jours ne seront pas tenus parce que les questions sont beaucoup trop compliquées et puis surtout parce que les Iraniens vont se sentir, à juste titre à mon avis, en position de force.
Sur la question du nucléaire, là encore, cela peut être considéré comme un retour en arrière avec l'accord de 2015 qui avait été déchiré par Donald Trump.
Il est clair que les négociations sur le nucléaire vont donc durer en principe 60 jours, mais à mon avis beaucoup plus donc, et on est très loin de l'accord de 2015. L'accord de 2015, je le répète, c'était une levée des sanctions avec aussi des investissements étrangers importants en Iran et en échange, en fait, il y avait un arrêt du programme nucléaire militaire avec une surveillance extrêmement étroite, extrêmement rigoureuse, contraignante par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et de tout cela, aujourd'hui, on va rediscuter de tout ça, mais ça m'étonnerait qu'on arrive à un accord aussi précis et aussi contraignant pour les Iraniens, parce qu'au fond, les Iraniens, aujourd'hui, se sentent, à juste titre, comme je l'évoquais, en position de force, et par conséquent, je ne vois pas pourquoi ils lâcheraient sur des questions qu'ils estimeraient essentielles, même s'ils lâchent les 440 kilos d'uranium enrichi.
Jean-Paul Chagnolo, directeur de la revue Confluence Méditerranée et président d'honneur de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient, au micro de François-Xavier de Calonne. Et les prix du pétrole accélèrent leur chute aujourd'hui. Le ministère suisse des Affaires étrangères a confirmé la tenue de premières négociations vendredi près de Lucerne en Suisse sur la mise en œuvre de ce protocole d'accord. Mais malgré cette signature de ce protocole qui prévoit la fin de la guerre sur tous les fronts de la région, dont le Liban, un homme a été tué aujourd'hui dans le sud du pays par une frappe israélienne, selon un média d'État. Jean-Yves Le Drian, envoyé spécial d'Emmanuel Macron pour le Liban, revient sur la clause de l'accord qui reconnaît la souveraineté du Liban. Il était invité ce matin chez nos confrères de TF1.
Il y a une nouveauté sur cette question libanaise qui est très forte. C'est d'une part que l'intégrité et la souveraineté du Liban est reconnue par le protocole entre les États-Unis et l'Iran. C'est un point lourd, c'est le premier paragraphe. Il y a une volonté collective qui s'est affirmée. Il apparaît pour tout le monde, y compris pour les Américains, que la paix par la force, ça ne marche pas et ça n'a pas marché. Il y a eu des bombardements en Iran, l'Iran a été sérieusement affaibli, mais l'Iran a gardé sa résilience, et donc maintenant on va ouvrir des négociations. Eh bien c'est la voie de la négociation qui doit aussi s'imposer sur la question libanaise, et pour ça il y a une ouverture le 22 lundi prochain à Washington de négociations entre Israël et le Liban. La difficulté du moment, c'est que les autorités israéliennes ne reconnaissent pas, ne se sentent pas liées à cet accord, parce qu'effectivement, une partie des buts de guerre d'Israël ne sont pas retenus dans l'accord entre les États-Unis et l'Iran, mais la négociation va s'ouvrir, elle est faite pour ça. Et deuxièmement, donc, ils reconnaissent aussi leur volonté de rester sur le territoire libanais, ce qui n'est pas dans les accords.
Jean-Yves Le Drian, envoyé spécial d'Emmanuel Macron pour le Liban. Dans le reste de l'actualité, l'Ukraine a lancé tôt ce matin sa plus importante attaque de drones contre Moscou depuis au moins 2 ans, ce qui a provoqué des incendies dans la région autour de la capitale russe et ce qui a perturbé les principaux aéroports, selon les autorités. La France et la Commission européenne ont signé hier un accord de près de 15,1 milliards d'euros en faveur de Paris pour le financement d'achats d'armements conjoints, dont des missiles et des avions de surveillance. Un grand jour pour la France et l'Europe, selon le ministre de l'économie, Roland Lescure.
Aujourd'hui, c'est, et je ne mâche pas mes mots, un grand jour pour la France, un grand jour pour l'Europe et un grand jour pour l'industrie française et européenne. Ça fait des décennies qu'on parlait de deux choses. Un, que l'euro ne serait jamais complet comme monnaie unique européenne tant qu'on n'aurait pas une capacité à financer ensemble des biens communs européens. Et il n'y a pas de plus commun comme bien que notre défense. Et on le fait. Et en plus, on va le faire donc en s'endettant en commun, en se prêtant et en investissant dans des industries qui vont travailler ensemble. Parce que dans les conditions de ce prêt, il faut qu'il y ait des projets communs. Que la France puisse travailler avec la Suède, l'Allemagne et d'autres. Que l'Italie puisse travailler avec la France, l'Espagne et d'autres. Enfin bref, que tout le monde travaille avec la France et qu'on travaille avec tout le monde.
Roland Lescure, ministre de l'économie. Et nous l'avons évoqué dans les titres, la canicule s'installe aujourd'hui sur une large partie du pays, de Paris au centre-est, avec des températures qui s'approchent de plus en plus des 40 degrés. 26 départements sont placés en vigilance orange canicule à partir de midi et Météo France maintient cette vigilance jusqu'à vendredi minuit. L'épisode caniculaire devrait perdurer la semaine prochaine avec un pic dimanche ou lundi. La SNCF a décidé de supprimer 71 trains intercité qui devait circuler de jeudi à lundi pour prévenir des pannes potentielles de climatisation liées aux très hautes températures. Et les quartiers populaires sont surexposés à la précarité énergétique d'été et au phénomène des logements bouilloires, rappelle aujourd'hui la Fondation pour le logement des défavorisés dans un rapport qui dresse un bilan des données disponibles. Affaire Liana, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a apporté hier son soutien et sa confiance à l'ensemble des enquêteurs de la police et de la gendarmerie en ajoutant qu'il veillerait à ce que l'affaire ne jette pas, je cite, le discrédit sur le travail colossal mené sur les dossiers de violences sexuelles sur des mineurs. Dans un tout autre volet, le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, va proposer aujourd'hui d'attribuer la citoyenneté d'honneur aux populations civiles et journalistes palestiniens lors d'un vote au Conseil de Paris qui devrait être soutenu par la majorité de gauche. Et enfin, les aides destinées aux particuliers, les grands rouleurs, commencent à être versées depuis hier. Et face à la hausse des prix des carburants, le gouvernement a prévu une aide de 100 euros pour les ménages dépendants de la voiture. 1 million de personnes ont fait la demande, selon Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement. Elle était invitée ce matin chez nos confrères de RMC.
Elle a commencé à être versée en début de semaine. Vous savez qu'il faut parfois quelques heures ou quelques jours le temps que ça arrive sur votre compte. Et donc, ces premières aides sont arrivées, commencent à arriver. Et nous, on a ouvert cette aide pour 3 millions de Français. Il faut faire une demande, évidemment, justifiée d'un certain nombre de critères. Vous le savez, critères de revenus, être en activité et utiliser sa voiture plus de 25 km par jour pour aller travailler. Aujourd'hui, il y a environ 1 million de Français qui ont formulé cette demande et qui donc ont touché ou vont toucher dans les jours à venir cette aide.
De Bréjon, porte-parole du gouvernement. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.